これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Julie-Marie Parmentier.
À la réalisation, François Connac. Il y a ceux qui résument par le haut toute la diversité du monde. On les appelle des métaphysiciens. Et en face, il y a ceux qui s'enfoncent dans le divers en quête des excréments qui sont l'humus de la morale. On les appelle des généalogistes. Métaphysique ou généalogie, c'est le grand partage de la pensée. La philosophie doit-elle tomber jusqu'aux cimes de la vérité ou bien s'élever jusqu'au bas-fond de nos mauvaises pensées? Faut-il surmonter les apparences au profit de la vérité ou bien examiner la source fétide où nos idées s'abreuvent? Faut-il dénoncer l'égoïsme au nom du bien ou bien démonter le bien en démontrant l'égoïsme qui lui donne le jour? Faut-il, en un mot, loucher vers l'au-delà ou bien regarder au loin, très loin, en soi-même?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Alors, on reprend aujourd'hui là où on s'était arrêté la semaine dernière, dans la première dissertation avec les crapauds.
Dans la première dissertation de la généalogie de la morale. Soyez indulgentes pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de nous entendre la semaine dernière, Paola. On parle de la généalogie de la morale de Nietzsche.
Et des crapauds anglais.
Et des crapauds anglais, ouais. Des crapauds froids et ennuyeux que sont les utilitaristes et même les évolutionnistes. Nietzsche s'en prend à Darwin d'ailleurs. Il croit penser contre Darwin quand il explique que, en substance, il faut protéger les forts contre les faibles. Il ne l'a pas dit comme ça, il dit « Les faibles finissent toujours par se rendre maîtres des forts, c'est parce qu'ils sont le plus grand nombre, ils sont aussi plus rusés. » Et en disant ça, Nietzsche croit s'opposer à Darwin, dont il pense, à mon avis, à tort, qu'il fait l'éloge d'une sélection naturelle par la force. Or, c'est par l'aptitude que Darwin développe sa théorie de la sélection naturelle, et non par la force. Mais laissons de côté cet éventuel contresens nietzschéen pour remarquer juste un point, c'est qu'aux yeux de Nietzsche, et c'est tellement intelligent, s'il faut protéger les forts contre les faibles, c'est que le faible est beaucoup plus fort que le fort. Parce que le fort, c'est bien, mais d'abord il est seul, et le faible est plus fort que le fort à la façon dont les fourmis sont plus fortes que le lion. Et que, par conséquent, protéger les forts contre les faibles, c'est empêcher le fort de devenir lui-même un faiblard, à la façon dont un type, après avoir été généreux toute sa vie, avoir été quasiment dans l'oblation toute sa vie, considérant que les individus à qui il a tant donné de lui-même se conduisent comme des crapauds, justement, se dit un jour trop bon, trop con, désormais, je deviendrai moi-même un crapaud. Et c'est cela que Nietzsche entend, c'est-à-dire que toute personne qui expérimente en elle l'inconvénient d'une générosité qu'elle offre à des gens qui ne la méritent pas et qui par conséquent se métamorphose en crapaud, cette personne-là doit lire la généalogie de la morale comme on cherche un refuge.
Alors peut-être on va reprendre un petit peu sur les distinctions qu'on avait esquissées à la fin de l'émission, de la dernière émission.
Oui.
Donc on avait vu en quoi les Anglais qui décryptaient l'origine des sentiments moraux, bons et mauvais, n'étaient pas des généalogistes. Peut-être qu'on
Alors peut leur... oui, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'a priori, on se dit, c'est la même affaire. Que fait Nietzsche dans la généalogie de la morale? Il est celui qui repère les pulsions sous des vérités présentées comme impérissables. Qui repère la fange, par exemple, sous le désir diamantin d'une vérité transparente, pour le dire très simplement et vraiment un peu grossièrement. Alors, que font les utilitaristes? C'est ceux qui repèrent le principe d'utilité derrière l'éloge des grandes vertus. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui vous fait une proposition financière avantageuse, on peut dire, on le dit en général par antiphrase ou par boutade, on dit « mais c'est la proposition d'un honnête homme ». On trouve ça chez Molière souvent d'ailleurs. « Mais cet homme-là est honnête, mais que c'est honnêtement proposé ». Si vous voulez, quand on vous fait une proposition avantageuse, on parle d'honnêteté. Du point de vue d'un crapaud anglais, la généalogie entre guillemets qu'il fait de l'idée d'honnêteté vient du fait que j'y trouve mon intérêt. Je trouve honnête celui qui va dans mon sens, à la façon dont je tiens pour égoïste celui qui ne pense pas à moi. Bien. Alors, il y a une parenté, il y a une familiarité, il y a un cousinage entre la généalogie de la morale chez Nietzsche et l'utilitarisme anglais, qui est au fond le cœur de sa cible. Mais c'est une parenté qui ne doit pas recouvrir un certain nombre de différences qui sont fondamentales. Et la première d'entre elles, c'est que Nietzsche, finalement... Alors, le titre de la dissertation, de la première dissertation de la généalogie de la morale, c'est « Bon et méchant, bon et mauvais ». Et le propos de Nietzsche est de dire que vous avez d'un côté une évaluation faiblarde des choses, anémiée, du monde, qui est en fait une évaluation de victime, un discours de victime. Je suis une victime, je me vis comme bon au titre que je suis une victime. Et je tiens pour méchant celui qui est plus fort que moi. À la façon dont un homme peut tenir pour méchante la femme qui le quitte dans la mesure où elle ne l'aime plus, lui. Donc la méchanceté du fort est bien souvent, aux yeux de Nietzsche, une invention du faible qui a été quitté par le fort, par exemple. Et « bon » et « mauvais », en revanche, recouvrent un système d'évaluation qui, cette fois-ci, part du haut, c'est-à-dire par des aristocrates. Il y a chez Nietzsche cette expression, il parle de « pathos de la distance », il parle de ces nobles, de ces puissants, de ces hommes de conditions supérieures et d'âme élevées qui se sont sentis eux-mêmes bons et ont estimé leurs actes bons, c'est-à-dire de premier ordre, par opposition à tout ce qui est bas, mesquin, commun et populacier. C'est intéressant ce que Nietzsche dit ici de la noblesse, parce qu'on comprend à quel point cet homme n'est pas platonicien. Nietzsche est moins anti-platonicien qu'il ne le pense, à mon avis. Quand il se présente lui-même d'ailleurs comme une inversion du platonisme, c'est au fond un reflet du platonisme, puisque qu'est-ce qu'un reflet sinon vous-même inversé. Donc il n'est pas franchement anti-platonicien, ou plus exactement, il n'est pas aux antipodes de Platon quand il se présente comme ouvertement anti-platonicien, puisqu'on est toujours tributaire de l'ennemi qu'on combat. En revanche, ce qu'il dit de l'aristocratie ici, d'une aristocratie qui n'a rien à voir avec la particule, ce qu'il dit de l'aristocratie ou d'une artistocratie n'est pas du tout platonicien. Je m'explique. Dans le Crépuscule des idoles, Nietzsche dénonce à un moment chez Socrate cette méchanceté du rachitique. Et il parle des Juifs et de Socrate. Il dit des mots très sévères sur les Juifs et sur Socrate en expliquant que les Juifs et Socrate, l'un et l'autre, ont une morale de victime et c'est la raison pour laquelle ils se servent de la dialectique. La dialectique chez Socrate ne sert pas tant à découvrir la vérité, ou plus exactement, c'est le but qu'elle présente, mais en réalité, c'est un instinct de rachitique, de vilain, de moche, de Socrate, destiné à humilier celui qui est beau.
Alcibiade.
Alcibiade. Et de fait, quand Socrate refuse de coucher avec Alcibiade, vous avez les platoniciens qui considèrent que Socrate, de cette façon, donne à Alcibiade son premier cours de philosophie en lui montrant qu'il y a plus important que le sexe dans la vie. Et puis, il y a les Nietzschéens qui considèrent que voilà une métaphysique qui justifie que deux êtres qui s'aiment ne fassent pas l'amour. Et ces deux interprétations du banquet se font face. Et là, véritablement, on a un débat très, très, très violent, à 2000 ans d'intervalle, plus de 2000 ans d'intervalle, entre Nietzsche et Platon. Mais ce que Nietzsche, ici, fait valoir, c'est qu'il y a, derrière le désir socratique d'inviter le noble à penser, de l'inviter à réfléchir, à sortir de ses certitudes. Derrière cette ambition maïotique de Socrate, il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a la méchanceté de la laideur, la méchanceté de la hideur, la méchanceté du rachitisme, la méchanceté de l'envieux, qui voudrait humilier ce corps dont il se sent indigne et qui trouve dans l'offre qu'Alcibiade fait à Socrate de coucher avec lui l'occasion rêvée d'humilier ce corps dont il se sent indigne. Et Nietzsche fait la généalogie de la dialectique platonicienne en montrant que ça n'est pas tant le désir de vérité que la haine d'une beauté dont il n'est pas capable, qui dicte chez Platon le goût de la dialectique chez Platon, c'est-à-dire chez le Socrate de Platon.
Mais on peut quand même vous demander, enfin demander à Nietzsche, quelle est cette noblesse qui fonde bon et mauvais, du coup, puisque vous avez dit, et ça semblait assez évident, que ce n'était pas la particule, enfin, on s'en doute, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une noblesse des forts à la façon de Calliclès, par exemple, dans le Gorgias ?
Oui, on peut considérer que, à mon avis en tout cas, quand dans le débat entre Calliclès et Socrate dans le Gorgias, Calliclès faisant l'éloge d'une force qu'il ne faut pas séparer de ce qu'elle peut, tient un discours typiquement nietzschéen. Alors Calliclès l'ancre dans la nature, le contexte est différent, mais effectivement on peut considérer que le débat Calliclès-Socrate est à l'avance un débat Nietzsche-Platon. Alors les nuances entre les deux sont trop subtiles pour qu'on y entre pleinement, mais retenons de tout cela que la noblesse, effectivement, c'est pas la particule. Bon, ça c'est une évidence, on sera tous d'accord là-dessus. Les aristocraties mondaines n'ont rien à voir avec ce que Nietzsche appelle des aristocraties nouvelles, comme avec ce que Hume pouvait appeler l'aristocratie du goût. Ce qu'il désigne ici par aristocratie, c'est, l'expression est de Patrick Votling, ou de Céline Denat, d'ailleurs je l'ai trouvé dans le dictionnaire Nietzsche, dont Patrick Votling et Céline Denat sont co-auteurs, c'est un dictionnaire vraiment remarquable. La noblesse, c'est, dit-il, un genre particulier d'organisation pulsionnelle, de valeurs caractéristiques d'un certain type d'homme ou de culture. C'est-à-dire, C'est un monde qui a un sens souverain de la distinction et dont les caractéristiques sont les suivantes. Alors, vous avez d'une part la bienveillance envers soi-même, ce qui, chez Nietzsche, consiste tout simplement à accepter ses faiblesses. La bienveillance envers soi-même commence à l'instant où l'on accepte ses faiblesses. Le premier, historiquement, dans l'histoire des idées, à ma connaissance, à avoir témoigné tant de bienveillance envers lui-même, c'est Spinoza, qui, au début du traité de la réforme de l'entendement, repérant le souverain bien, ne s'interdit pas pour autant de désirer les faux biens que sont la richesse, la gloire ou la lubricité. Il a suffisamment de bienveillance envers lui-même pour accepter de vouloir ce qu'il sait ne pas être tout à fait bon pour lui. Donc, premier critère, la bienveillance envers soi-même. Deuxième critère, ce qu'il appelle le pathos de la distance, qu'on retrouve dans la généalogie de la morale, et dans, même avant la généalogie de la morale, dans Par-delà bien et mal. C'est-à-dire, au fond, le sentiment de la distance. Cette façon que l'on a, alors c'est ce qu'il appelle l'instinct du rang. C'est une tendance naturelle à se distinguer et à établir des hiérarchies, à affirmer sa propre valeur. Et on est ici en face d'un égoïsme au sens noble. Non pas l'égoïsme sournois du type qui appelle altruiste celui qui est généreux à son profit. Non pas l'égoïsme de celui qui, dans le rapport à autrui, se contente de faire le calcul de son propre intérêt, à la façon dont les utilitaristes anglais pourraient le repérer, celui-là. Non, c'est ici un égoïsme au sens noble, un égoïsme souverain, l'égoïsme souverain de celui qui s'arroge le privilège par confiance en lui, eh bien d'établir des valeurs. Alors, les nobles à cet égard, on pourrait dire mais c'est très antipathique, pour qui se prennent ces gens qui s'autorisent à établir des valeurs. Qui sont ces nobles dont parle Nietzsche? La meilleure définition qu'on en donne, on la trouve chez Camus, dans une lettre à René Char. Dans une lettre à René Char, la première lettre que Camus envoie à René Char, il lui dit « Cher René Char, j'aimerais acheter une maison du côté de Lourmarin, aidez-moi à trouver une maison. » Alors évidemment, c'est faute de mieux parce que mon désir véritable serait de rentrer en Algérie. Il dit « Je suis fatigué de Paris et de la pègre qu'on y rencontre. Mon désir profond serait de regagner mon pays, l'Algérie, qui est un pays d'hommes, un vrai pays, rude, inoubliable. » Un pays d'hommes, un vrai pays, rude, inoubliable. Moi, il me semble qu'on est là en présence de ce que Nietzsche entend par noblesse, c'est-à-dire le sentiment de sa propre valeur. Le sentiment de sa propre valeur, un sentiment dans lequel, paradoxalement, n'entre aucun narcissisme. C'est toute la finesse de la pensée de Nietzsche. Ce serait très compliqué, d'ailleurs, de l'expliquer, ça. Je ne suis même pas sûr d'y parvenir. Mais intuitivement, je peux vous dire que c'est un sentiment, croyez-moi sur parole, dans lequel n'entre pas, je crois, le narcissisme. C'est le sentiment qui permet à un individu de lutter contre ceux qui, à ses yeux, méritent d'être ses ennemis. Comme c'est le sentiment qui lui permet d'obéir avec fierté à ceux qu'il reconnaîtrait comme supérieurs à lui. Si vous voulez, l'essentiel ici, c'est de comprendre que, aux yeux de Nietzsche, la noblesse ne se définit pas par la violence ou par une dépense brutale de force, à la façon dont le lion écrase l'animal qui est plus petit que lui, ou l'éléphant. Mais, dit-il, par une maîtrise de soi, qu'autorise la maîtrise d'une multiplicité pulsionnelle. Nous sommes faits d'une multiplicité pulsionnelle, d'un chaos, d'une sorte de dionysisme interne. Donc on est dionysiaque en nous-mêmes, et c'est le taux d'apollinisme, c'est-à-dire c'est le taux de construction qu'on est capable d'intégrer à l'intérieur de ce chaos. C'est le taux d'ordre, de hiérarchie, de grand style qu'on est capable de mettre à l'intérieur de son propre chaos qui qualifie la noblesse. Il faut, dit-il, ne pas avoir peur de soi-même, ne rien attendre de déshonorant de soi et voler sans hésitation dans la direction où l'on est poussé. Et c'est en cela que la noblesse, aux yeux de Nietzsche, est susceptible de créer des valeurs nouvelles, ce qu'il appelle des valeurs nouvelles. La première d'entre elles étant l'invitation à se dépasser soi-même. C'est-à-dire que c'est une exigence, la noblesse, le propre d'une nature supérieure, hein, comme dit Nietzsche, il emploie l'expression qui est dangereuse et sujette à caution, c'est qu'elle produit des valeurs aristocratiques qui permettent finalement à la culture de s'élever, de s'épanouir contre le nivellement démocratique ou religieux, si vous voulez. Les nobles, c'est qui? Et c'est en cela, peut-être, tiens, qu'il n'y a aucun narcissisme là-dedans. Les nobles, ce sont ceux qui ont appris à ne pas vénérer le monde. Ce sont ceux qui ont appris à ne pas mettre le monde à leurs mains, ordonner le monde selon les bons vouloirs de leur propre vénération. C'est ceux qui ne prennent pas leurs désirs pour des réalités. C'est ceux qui ne tentent pas d'humaniser le monde. C'est ceux qui ne cherchent pas, par exemple, à flatter les lecteurs. C'est ceux qui ne cherchent pas ou électeurs, ou le lecteur ou les lecteurs. C'est ceux qui ne cherchent pas à flatter. C'est ceux qui n'interprètent pas le monde à leur usage. C'est ceux qui ne tentent pas de bâtir un monde à leur mesure. C'est ceux qui assument ce qu'il y a d'inhumain dans le monde.
Et en cela, on peut retrouver dans cette noblesse altière dont vous avez parlé, quelque chose qui est commun à Nietzsche et par exemple à Kant, c'est un refus de la pitié.
Disons que ce que Nietzsche refuse dans la pitié, c'est la part de me semble-t-il, de satisfaction qui entre, d'auto-satisfaction qui entre dans le fait d'éprouver de la pitié.
Comme chez Kant.
Oui, bien sûr. Mais c'est la part d'auto-satisfaction qui entre dans le fait d'éprouver de la pitié. Mais en même temps, ça n'empêche pas Nietzsche de développer une modalité de la générosité, en particulier par exemple dans Zarathoustra, qui véritablement relève de ce qu'on peut appeler la pitié au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire la capacité véritablement à se mettre à la place d'autrui, à souffrir à sa place. Et cette capacité repose justement sur le constat et le sentiment d'une différence. Les vraies natures nobles sont des natures fragiles. Ce sont des natures douloureuses. On a mal au monde entier quand on est noble. Être noble, c'est en un sens, non pas porter le poids ou le fardeau du monde sur les épaules, puisque c'est le contraire aux yeux de Nietzsche, mais c'est se donner les moyens de souffrir des douleurs qui nous sont épargnées, par exemple. Et dans le même temps, il repère derrière la pitié, la complaisante pitié, quelque chose qui relève d'un esprit sournois, d'un esprit louche, d'un esprit ascétique.
Il y a, dès le principe, quelque chose de morbide dans ces aristocraties sacerdotales et dans leurs habitudes dominantes, hostiles à l'action, voulant que l'homme tantôt couve ses songes, tantôt soit bouleversé par des explosions de sentiments. La conséquence paraît en être cette débilité intestinale et cette neurasthénie presque fatalement inhérente aux prêtres de tous les temps. Et le remède préconisé par eux contre cet état morbide, comment ne pas affirmer qu'en fin de compte, il s'est trouvé 100 fois plus dangereux encore que la maladie dont il s'agissait de se débarrasser? L'humanité tout entière souffre encore des suites de ce traitement naïf imaginé par les prêtres.
On est passé dans la sixième, le sixième paragraphe de la première dissertation.
De la généalogie de la morale.
Voilà. Mm-hmm. Et je tenais à préciser qu'en tout cas, à mon sens, je trouve que c'est à partir de ce moment-là où ça se complique un petit peu, que les choses se compliquent.
Vous voulez dire que jusqu'ici, c'était facile,
hein. Loin de là, non, mais que... Enfin, même au sens des mots, les mots deviennent plus difficiles à saisir.
Vous avez raison, hein, vous avez raison.
Parce
c'est,
que...
C'est très difficile, hein, c'est très difficile. C'est très marrant. Mais c'est très difficile.
Voilà, on parlait d'une noblesse, d'une aristocratie que semblait encenser Nietzsche. Et puis, on passe dans une aristocratie morbide, qui est celle sacerdotale,
oui.
et qui a... Alors, il parle de thérapeutique.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il y a une thérapeutique des prêtres. Nietzsche oppose ici deux formes d'aristocratie, l'aristocratie sacerdotale et l'aristocratie des nobles. Si vous voulez, l'évaluation des prêtres et l'évaluation des aristocrates, au fond. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, il y a une fonction thérapeutique. Alors, voyez par exemple, pour Nietzsche, il y a une thérapeutique chez Socrate. Socrate est un philosophe médecin, comme lui. Sauf que la cure que propose Socrate aux yeux de Nietzsche repose sur la castration. Donc évidemment, c'est pas que ça marche pas, c'est que ça marche à sa manière, si vous voulez. Mais ça marche à la façon dont on prétend éteindre le désir pour remédier au désir. Or, pour Nietzsche, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est important, l'idée d'une thérapeutique sacerdotale. Les prêtres sont des médecins, à leur manière. Sauf que la cure consiste, c'est un peu à la façon dont on soignait la peste, si vous voulez. On soigne la peste en vidant les individus de leur sang. Donc, on soigne peut-être, mais en soignant, on détruit. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il, dans ces naïvetés thérapeutiques, comme on le dit dans une autre traduction de la généalogie de la morale, dans ces naïvetés thérapeutiques du prêtre. Et ces naïvetés thérapeutiques du prêtre, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la cure proposée par le prêtre, Paola ? Sur quoi ça repose ? Sur quoi ça ? Eh bien, sur ce qu'il appelle des idéaux ascétiques, c'est-à-dire, enfin, sur une démarche ascétique, plus exactement. Naïveté numéro 1, le régime végétarien. Nietzsche n'aime pas, manifestement, le régime végétarien, encore que ce soit sujet à caution. C'est intéressant qu'il s'en prenne à la prohibition de consommer de la viande, alors qu'à ma connaissance, il n'est pas grand consommateur de viande lui-même. Mais bon, néanmoins, il s'en prend... Peut-être pense-t-il à Wagner, qui était végétarien, justement, à cet instant. Ça, c'est possible. Mais bon, donc il y a le régime végétarien. Il y a l'idée d'un jeûne, autre naïveté thérapeutique du prêtre, considérer que le jeûne est le meilleur remède à la suralimentation. Oui.
Par rapport au traitement du prêtre, les prêtres recommandent le régime végétarien.
Écoutez, il dit ceci, songeons par exemple, alors l'humanité entière continue à souffrir des suites des naïvetés thérapeutiques du prêtre. Songeons par exemple à certains régimes diététiques, prohibition de consommer de la viande, au jeûne, à l'abstinence sexuelle, à la fuite dans le désert. Joignons-y toute la métaphysique des prêtres, ennemis des sens, qui engendrent la paresse et la ruse, leur art de s'hypnotiser à la façon des fakirs et des brahmanes, et à la fin, le dégoût parfaitement compréhensible avec sa cure radicale, le néant. Donc, dans les naïvetés du prêtre, il y a l'abstinence, la fuite dans le désert, le jeûne, le régime végétarien, la métaphysique des prêtres ennemis des sens, qui engendre la paresse et la ruse, leur art de s'hypnotiser à la façon des fakirs et des brahmanes, et le goût du néant, c'est-à-dire au fond le propre de ceux qui voudraient préférer l'absence de désir aux effets du désir. C'est ceux qui désirent ne plus désirer, au fond. Même si c'est encore un désir, ce que Nietzsche repère à la toute fin de la généalogie de la morale. C'est ceux qui voudraient ne plus vouloir, c'est ceux qui désirent ne plus désirer. C'est ceux dont l'orgueil... l'instinct de vengeance, la soif de domination prennent les formes plus fréquentables, plus flatteuses de l'abstinence, de l'ascétisme, du jeûne ou de la fuite dans le désert. Et en cela, aux yeux de Nietzsche, la prêtrise est une forme de l'humanité essentiellement dangereuse, mais en même temps intéressante. Et c'est là le grand mérite de Nietzsche, c'est qu'il n'y a pas plus antichrétien que Nietzsche, mais il considère que c'est à l'instant où le prêtre a pris le pouvoir que l'homme est devenu un animal intéressant. D'ailleurs, il dit lui-même que le chrétien est redoutable puisqu'il est plus malin que le singe. Tout en repérant chez le chrétien, dans la disposition chrétienne de l'esprit, une forme d'ascétisme toxique, nocif, dans le même temps une cure qui repose sur la castration, et de ce point de vue d'ailleurs, nous sommes bien souvent nietzschéens, si vous voulez, quand on repère de l'envie ou du ressentiment derrière l'abstinence ou cette folie du célibat des prêtres, cette folie qui a brisé tant de vies. De la part des prêtres ou, en l'occurrence, des victimes de certains d'entre eux, cette folie du célibat des prêtres, Nietzsche est le premier, en tout cas celui qui le formule le mieux, à repérer le ressentiment, la haine, la rancœur et le danger derrière cette passion de l'ascétisme qui caractérise la prêtrise, la traîtrise prêtrise ou la traîtresse prêtrise. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait dans le paragraphe 7, c'est les différences d'évaluation, ce qu'il appelle les différences d'évaluation, entre les aristocrates et les prêtres, c'est-à-dire entre la caste sacerdotale et celle qu'il appelle la caste des guerriers. Et c'est intéressant, Paola, parce que le paragraphe 7 est un des paragraphes qu'on a pu brandir à l'appui de l'idée selon laquelle Nietzsche était antisémite.
Les prêtres, le fait est notoire, sont les ennemis les plus méchants. Pourquoi donc ? Parce qu'ils sont les plus incapables. L'impuissance fait croître en eux une haine monstrueuse, sinistre, intellectuelle et venimeuse. Les grands vindicatifs dans l'histoire ont toujours été des prêtres, comme aussi les vindicatifs les plus spirituels. Auprès de l'esprit que déploie la vengeance du prêtre, tout autre esprit entre à peine en ligne de compte. L'histoire de l'humanité serait, à vrai dire, une chose bien inepte sans l'esprit dont les impuissants l'ont animée. Allons droit à l'exemple le plus saillant. tout ce qui sur terre a été entrepris contre les nobles, les puissants, les maîtres, le pouvoir, n'entre pas en ligne de compte si on le compare à ce que les Juifs ont fait. Les Juifs, ce peuple sacerdotal qui a fini par ne pouvoir trouver satisfaction contre ses ennemis et ses dominateurs que par une radicale transmutation de toutes les valeurs, c'est-à-dire par un acte de vindicte essentiellement spirituel.
Là encore, le jugement est sévère.
Oui, on est en plein anti-judaïsme, incontestablement.
Et pourquoi pas antisémitisme ?
Eh bien, parce que c'est toute la différence qu'il y a entre l'anti-judaïsme et l'antisémitisme, de la même façon que l'anticléricalisme. Enfin, vous ne percevez pas l'anticléricalisme comme un racisme, Paola. Bien. Or, l'anti-judaïsme nietzschéen est un anticléricalisme. L'anti-judaïsme nietzschéen repose sur l'idée que, bon, l'ennemi, c'est le christianisme. Mais du coup, c'est le christianisme et c'est sa source. Or, la généalogie de la morale propose une généalogie du christianisme par le judaïsme. C'est tout l'objet du paragraphe 8 d'ailleurs. Tiens, attendez, je l'ai sous les yeux. À la souche de l'arbre de la vengeance et de la haine juive, la plus profonde et la plus sublime des haines, créatrice d'idéaux, transformatrice de valeurs, une haine dont il n'a jamais existé l'appareil sur terre, de là est sorti quelque chose d'aussi incomparable, un nouvel amour, la plus profonde et la plus sublime sorte d'amour. Et de quelle autre souche aurait-il pu sortir? Mais n'allons pas imaginer qu'il s'est développé comme la négation de cette soif de vengeance, comme le contraire de cette haine juive. Non, c'est l'inverse qui est vrai. Cet amour est sorti de la haine. Il en est la couronne, couronne du triomphe qui grandit dans la pure clarté d'une plénitude solaire, etc., etc., etc. Bref, les Juifs ont engendré le christianisme. Les Juifs ont produit le christianisme. Et dans son esprit, ce qu'il appelle la haine juive, haine de soi, l'ascétisme judaïque, est à la source de son ennemi en chef, c'est-à-dire le christianisme. Mais Là où il faut bien comprendre qu'on n'est pas ici en présence de l'antisémitisme, c'est que qu'est-ce qu'un antisémite dirait ? L'antisémite pourrait dire, par exemple, les Juifs sont partout, les Juifs ont les pleins pouvoirs, les Juifs sont derrière chacune de nos décisions. Alors, l'antisémitisme consiste à repérer chez les Juifs, à tenir les Juifs, par exemple, pour les membres d'une même famille, d'une même caste, d'un même clan, dont la solidarité s'exerce aux dépens des gens qui ne savent pas combien ce sont les Juifs qui tiennent le pouvoir. Or, le propos de Nietzsche est tout autre. Le propos de Nietzsche est de dire que le judaïsme a produit le christianisme en termes d'histoire même des idées. Et que c'est bien ça le problème. Donc il ne s'agit pas de la paranoïa démente du type qui considère qu'il y a des juifs partout et qui sont au pouvoir. Non, cette paranoïa assez réconfortante d'ailleurs quand on est juif et qu'on est déprimé. Il faut toujours avoir un antisémite sous la main. Parce que quand vous êtes juif et que vous êtes déprimé, allez voir un antisémite qui vous expliquera que les juifs ont les pleins pouvoirs, ça met de bonne humeur. Ça rassure, ça réconforte. Alors, ici, Nietzsche ne nous offre aucun réconfort de cet ordre-là, puisqu'il s'agit pour lui de dire que les Juifs, que le christianisme est tout entier l'héritier de ce qu'il appelle une dépréciation. Il dit, c'est avec les Juifs que commence le soulèvement des esclaves dans la morale, ce soulèvement qui traîne à sa suite une histoire longue de 20 siècles et que nous ne perdons aujourd'hui de vue que parce qu'il a été victorieux. Alors, pour en revenir, parce que c'est très important avec Nietzsche, puisqu'il a été falsifié par sa sœur, préempté par les nazis, et je dois dire, caricaturé par les Kantiens de façon tout à fait scandaleuse, pour le coup, philologiquement scandaleuse. Il y a notamment un livre qui s'appelle « Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens », qui est un vieux livre, qui est un livre qui fourmille d'erreurs philologiques. Laissons cela. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre cette différence entre anti-judaïsme, qui est une opinion, alors là, pour le coup, parfaitement légitime, et antisémitisme. Pour ça, tiens, on revient, on a parlé de Dieudonné la semaine dernière. Après tout, c'est d'actu, comme on dit. Il faut revenir sur le discours dieudonniste du deux poids, deux mesures. Quel est l'argument du discours dieudonniste sur le deux poids, deux mesures ? L'argument, c'est de dire qu'on ne peut pas dire du mal des Juifs, alors qu'on peut cartonner les musulmans et, dans une moindre mesure, les chrétiens. À l'appui de cette thèse, il y a par exemple le cas de Charlie Hebdo et des caricatures, des fameuses caricatures du prophète dans Charlie Hebdo. Alors, On laisse de côté la question de savoir à quel point il faut haïr Dieu ou le méconnaître pour interpréter ses paroles au point de le tenir pour offensé par les desseins des hommes. On laisse ça de côté. Le discours est de dire, voilà un journal qui s'offre le droit de caricaturer le prophète, mais qui en revanche vire Siné au motif que Siné a dit une phrase antisémite quand il a expliqué que le fils Sarkozy s'était converti au judaïsme par goût de l'argent ou par goût du pouvoir. Bien, la phrase est à peu près celle-là. Et donc on dit, voilà, c'est pas juste, il y a deux poids, deux mesures. Alors, revenir sur cet argument en gardant à l'esprit la différence entre anti-judaïsme et antisémitisme, c'est-à-dire en gardant à l'esprit ce que Nietzsche lui-même dit, peut être très utile. Je m'explique. D'abord, l'idée qu'on peut taper sur l'islam et pas sur les juifs est factuellement absurde. Il y a eu, à la une des journaux satiriques et en particulier celui-là, plus de une anti-judaïsme que anti-islam. Je veux dire, aucun monothéisme n'est épargné par Charlie Hebdo, Dieu merci. Donc ça, c'est un premier point. Mais la meilleure objection, elle n'est pas seulement quantitative. La meilleure objection, elle est, je crois, qualitative. Ça n'est pas de l'antisémitisme que de mettre un rabbin en une de Charlie Hebdo, ou que de mettre le prophète, ou que de mettre un curé. Ça n'est pas de l'antisémitisme d'y mettre un rabbin, ça n'est pas de l'islamophobie d'y mettre des caricatures du prophète, ça n'est pas de la christianophobie ou du racisme antichrétien que d'y présenter un curé. Non, en revanche, il y a incontestablement de l'antisémitisme dans le fait de dire, comme l'a fait Siné, qu'un individu se convertit au judaïsme par goût du pouvoir ou de l'argent. C'est-à-dire qu'en disant cela, il ratifie un cliché qui, pour le coup, est un cliché ouvertement antisémite. Donc, il y a de l'antisémitisme là-dedans, il y a de l'antisémitisme là-dedans, dans le fait de dire qu'on se convertit au judaïsme par goût du pouvoir ou par goût de l'argent, comme il y a de l'islamophobie, dans le fait de considérer que l'islam en tant que tel, et non son dévoiement radical, est incompatible avec la République. Vous voyez la différence? Il n'y a aucune islamophobie dans le fait de considérer que les intégristes sont un danger pour la République, que les fondamentalistes musulmans sont un danger pour la République. Ça n'est pas islamophobe de le dire. Ça n'est pas antisémite que de mettre un rabbin en situation grotesque en couverture du même magazine comme ils l'ont fait 50 fois. Il n'y a ni antisémitisme ni islamophobie là-dedans. En revanche, il y a de l'antisémitisme dans le fait de dire qu'on devient juif par goût de l'argent et il y a de l'islamophobie dans le fait de considérer que l'islam en tant que tel n'est pas compatible avec la République. Or ça, Charlie Hebdo l'a jamais fait, ni même laissé entendre. Et si on en revient à Nietzsche, c'est à force de ne pas faire cette distinction qu'on a pu parler d'antisémitisme chez Nietzsche. L'anti-judaïsme nietzschéen repose sur une critique de l'idéal ascétique, ce qu'il appelle l'idéal ascétique, dont Nietzsche considère à tort ou à raison qu'il est né du judaïsme. Ça, c'est pas de l'antisémitisme, c'est une histoire de la morale et des religions, vue par lui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre le fait de dire que le judaïsme est à l'origine de l'ascétisme chrétien, ce qui se discute, et le fait de dire que Patrick Cohen aurait dû mourir dans une chambre à gaz, ce qui se combat. C'est la différence qui sépare le débat de la guerre. Dans le premier cas nietzschéen, anti-judaïsme nietzschéen, qu'est-ce qu'on fait? On évalue un dispositif. Judaïsme ergo christianisme. Dans le second cas, on juge et on condamne une essence, l'être juif, et les attributs qu'on lui prête, l'avarice, la solidarité, le goût du pouvoir, etc., etc., etc. C'est pas la même chose. De la même façon pour l'islam. Il y a une différence entre le fait louable de se moquer du prophète, qui le mérite autant qu'un autre, car ça n'était pas un saint, mais c'était un homme avec des testicules, des intestins, des faiblesses et des mauvaises pensées. Bon. Et le fait de dire que l'islam est par définition incompatible avec la République. La confusion de la critique du judaïsme et du cliché antisémite, c'est-à-dire au fond la confusion Nietzsche-Siné, faut le faire quand même, la confusion de la critique du judaïsme et du cliché antisémite, comme la confusion d'un blasphème à l'endroit du prophète, qui est une façon de faire entrer l'islam dans la République, justement, c'est-à-dire dans un espace de liberté où tout se questionne et où on a le droit de se moquer des religions, et de l'idée grotesque selon laquelle l'islam n'a pas sa place en République, cette double confusion permet d'établir très précisément la limite entre les extrêmes et les partis républicains, justement. C'est en distinguant ces deux choses-là qu'on évite de verser dans l'extrême, dans l'extrémisme. Qu'est-ce que c'est qu'un parti républicain? À quoi on le reconnaît? On le reconnaît au fait qu'il critique sans haïr. Et donc, qu'il sait distinguer la critique de la haine quand on lui fait des critiques. Un parti radical, au sens extrémiste du terme, se reconnaît au mélange des genres, au fait de confondre l'un et l'autre, ce qui produit un dialogue de sourds. voyez ? Donc, c'est très important, ça, de repérer. Il y a de l'anti-judaïsme chez Nietzsche. C'est incontestable. Mais il n'y a pas, et on serait bien en peine de le trouver, me semble-t-il, un atome d'antisémitisme chez Nietzsche. Et cette différence-là, elle est fondamentale. On la comprend d'ailleurs au paragraphe 8 quand il parle du passage du judaïsme au christianisme, et au paragraphe 9 dans lequel il parle de cet engendrement du christianisme par le judaïsme comme d'une victoire du peuple, une longue victoire du peuple, c'est-à-dire de la plèbe, du troupeau et des esclaves.
Vous avez parlé du paragraphe 9, donc ça va nous permettre de progresser un petit peu dans la première dissertation de la généalogie de la morale. De quoi est-il question exactement dans ce paragraphe ? Je vois en le parcourant comme ça du regard qu'il dit que les maîtres sont abolis et que la morale de l'homme du commun a triomphé. J'allais vous demander en quoi est-ce que c'est mal que l'homme du commun ait triomphé, mais déjà dans l'expression, on le sent bien, c'est le vulgaire face au noble, mais...
Oui, c'est le vulgaire face au noble, mais c'est la morale de l'homme du commun a triomphé. C'est pas seulement le triomphe de la plèbe qu'il dénonce. C'est la morale qui va avec, c'est-à-dire une morale du nivellement. Un refus de la tête qui dépasse. Une façon que l'on a de faire jouer l'égalité démocratique, aux yeux de Nietzsche, aux dépens des natures d'exception. À la façon dont on peut, alors ça c'est un tic français bien connu, bien répandu, restons en France, à la façon dont on prend en général, les critiques prennent en général pour tête de Turc le film qui marche, le livre qui marche, vous voyez ? Il y a cette espèce de snobisme bien français qui consiste à célébrer, alors qui pour le coup est vraiment un snobisme, j'allais dire presque catégoriel, c'est le snobisme d'une caste en l'occurrence, la caste des sachants qui s'indigne du succès d'un livre, du succès d'un film, du succès en général, ou bien de la tête qui dépasse, et dont on considère par conséquent que si elle dépasse, une tête qui dépasse est une tête qui a vendu son âme.
Si Mais c'est deux choses différentes. Celui qui s'indigne que la tête dépasse et celui qui s'indigne que du succès général d'une œuvre.
Non, je ne suis pas sûr, en l'occurrence. Il me semble que c'est plutôt la même chose. Quand il parle de la morale de l'homme du commun, c'est cela. Hein. C'est-à-dire que c'est une morale très puissante. C'est la morale de Procuste. Souvenez de Procuste, Paola. Procuste, c'est cet aubergiste qui vous offre un lit, qui vous offre le gîte et un lit, mais qui, quand le lit est plus grand que vous, vous écartèle jusqu'à ce que vos pieds et votre tête atteignent les limites du lit, et qui, quand le lit est trop petit, découpe ce qui, de vous, dépasse. C'est ça, ce qu'il entend ici par la morale de l'homme du commun. C'est-à-dire cette façon que l'on a de déguiser en vertu, en bonté, en égalité, en démocratie, ce qui relève d'abord du ressentiment. Et le diagnostic de Nietzsche est en cela extrêmement sévère, antidémocratique, mais incroyablement fécond à l'ère démocratique où nous vivons. Nietzsche, par exemple, rirait à gorge déployée, s'il en était capable, et s'il était encore là, de ce bigotisme égalitaire qui consiste à considérer que l'équivalence des droits est également une équivalence des talents. C'est-à-dire que... qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Ce sont des droits égaux, en principe. Une égalité des chances, en principe. Bien. Et elle n'est jamais acquise, il faut toujours travailler pour la conquérir, etc., etc. Bien. Mais cette égalité des chances est bien souvent confondue avec une égalité des talents. C'est-à-dire, on veut penser que les individus ont les mêmes capacités ou les mêmes dons. C'est le régime, par exemple, de l'expertise généralisée, qui ne marche qu'au foot. Je veux dire, il n'y a qu'au foot que l'expertise peut se généraliser à ce point, si vous voulez. Pour le reste, quand on parle d'astronomie ou même de politique, si vous voulez, le monde de l'expertise généralisée, c'est en général le café du commerce. C'est très intéressant de voir comment, en s'en prenant à la morale de l'homme du commun, Nietzsche s'en prend en réalité, et c'est son seul ennemi, au ressentiment. Et pour ce faire, il a besoin de confondre dans un même mouvement la religion et la démocratie, qui sont deux outils de nivellement par le bas, deux outils égalitarisants, si j'ose dire. Victor Hugo, d'ailleurs, un jour, emploie une expression dans sa correspondance, je crois, il parle des inégalités de l'égalité. Ce que je trouve une expression très belle, et pour le coup que Nietzsche aurait pu, en un sens, je crois, reprendre à son compte. Alors, Une mauvaise lecture de Nietzsche, une lecture sotte, c'est-à-dire une lecture partielle ou une lecture idéologique de Nietzsche, verrait dans ce constat, dans le constat de Nietzsche, la défaite des maîtres et la victoire de l'homme du commun, la déploration que la loi du plus fort ait disparu, au fond. Mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. D'abord, historiquement, si vous voulez, la victoire du peuple, objectivement, il n'y en a pas des masses, hein, des victoires objectives du peuple. En 2000 ans d'existence, et en particulier au 19e siècle, il n'y en a pas beaucoup des masses, hein, de victoires du peuple. Ensuite, il faut s'entendre par ce qu'on appelle le peuple. Est-ce que c'est la masse ou est-ce que c'est le tout ? Est-ce que c'est l'ensemble d'un corps électoral, par exemple, ou est-ce que ça désigne juste la plèbe ? Et enfin, il faut comprendre que Nietzsche, par peuple, emploie le mot de peuple dans un sens essentiellement métaphorique. C'est-à-dire que pour lui, le peuple, c'est une morale. C'est une morale qui recouvre du noble sentiment d'égalité ce qui relève du ressentiment. À la façon dont, chez Schopenhauer, l'amour est un maquillage en alexandrin d'une pulsion reproductrice fondamentale et agissante dans l'espèce humaine. Du coup, si on se sert de la victoire du peuple comme d'une métaphore, on peut comprendre que ce qu'il appelle victoire du peuple, c'est aussi à ses yeux, par exemple, le triomphe des monarchies absolues ou des tyrannies que révère le peuple au nom même de l'égalité. Parce que ce sont paradoxalement des systèmes égalitaires. Ce sont des systèmes où, en dessous du tyran ou en dessous du monarque, en définitive, chacun étant à sa discrétion, chacun est quasiment dans une situation d'égalité. Nietzsche, c'est un psychologue. Mais ça ne veut pas dire que ce soit un spécialiste du développement personnel, si vous voulez. C'est un médecin de l'âme, dont la cure consiste à porter un diagnostic sur la pathologie dont nos croyances sont les symptômes. Or, que signifie la victoire du peuple ? La victoire du peuple, Paola, c'est la victoire en soi-même, de la partie grégaire de soi-même. C'est le troupeau en vous, ou le troupeau en moi, qui prend le dessus. C'est-à-dire, c'est la victoire d'une mauvaise hiérarchisation des pulsions, qui fait que la partie grégaire de moi-même a pris le pouvoir, à la façon dont elle prend le pouvoir en cas de micro-trottoir, par exemple. C'est ça ce qu'il appelle la victoire du peuple. C'est en ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est une servitude volontaire. C'est-à-dire, c'est une liberté vaincue par sa propre victoire. Or, quel meilleur exemple, à ses yeux, de servitude volontaire que l'invention des monothéismes ? C'est-à-dire cette façon que l'homme a trouvé de se soumettre à lui-même, c'est-à-dire à la chimère d'un créateur dont il est en fait lui-même le créateur véritable. Quel meilleur triomphe de la plèbe en soi ? C'est ça qui compte. Et c'est là qu'il est psychologue, que l'individualisme contemporain, par exemple, qui sanctifie le petit moi sans voir que de cette manière, le petit moi se conduit exactement comme tout un chacun, et que rien n'est plus commun que de ne penser qu'à soi. Donc vous voyez, Paola, la victoire du peuple, c'est l'introduction du ressentiment comme source vive de nos affects et de nos croyances. Mais en nous-mêmes, en soi, c'est-à-dire, il faut bien prendre la mesure de la dimension métaphorique de tout cela. Oh, chez Nietzsche, il y a une dimension historique. Il y a une dimension même sociologique. Il y a une dimension culturelle. Mais tout cela n'est rien, je crois, à côté de la dimension psychologique qu'il décrit. Et c'est véritablement, on a parlé tout à l'heure de cette hiérarchie qu'un individu devait savoir établir en lui-même. Et la victoire du peuple, c'est quand à l'intérieur de soi, on est cul par-dessus tête. C'est-à-dire quand, quand c'est le ressentiment qui prend le pouvoir, quand c'est la colère qui prend le pouvoir, quand c'est un tempérament réactif qui prend le pouvoir, aux dépens d'un tempérament affirmateur. Or, il y a un philosophe, au XXe siècle, qui, alors que à bien des égards, il est ouvertement fréquentable que Nietzsche, si vous voulez, moins sulfureux que Nietzsche, il y a un philosophe qui le dit au XXe siècle. C'est qui ?
C'est Camus,
c'est l'homme révolté. Vous vous souvenez du début de l'homme révolté, Paola ?
Oui, mais rappelez-le-nous.
C'est tout simple, c'est que, juste après l'avant-propos, Camus dit « un homme révolté, c'est un homme qui dit non ». Oui, mais avant de dire non, il doit dire oui. Et c'est en faisant valoir le fait que le oui précède le non, c'est-à-dire que quand on dit non à quelque chose, quand on dit non à une injustice, on le dit d'abord par amour de la vie, avant de le dire par haine de l'injustice. Et que la haine de l'injustice nous vient de l'amour de la vie. Ne pas oublier que la haine de l'injustice doit nous venir de l'amour de la vie. Au fond, c'est une antigénéalogie, si vous voulez. C'est-à-dire que Nietzsche repère la haine sous l'érection du bien, alors que Camus, lui, essaie de repérer l'amour derrière le refus, c'est-à-dire derrière le non, derrière le soulèvement des esclaves, soulèvement salutaire. Donc, si vous voulez, c'est la même affaire. La victoire du peuple, ce qu'il appelle victoire du peuple ici, c'est une victoire du refus sur l'amour. C'est une victoire du non sur le oui. C'est une victoire de l'envie sur l'admiration. Tiens, au paragraphe 10, il dit « Le soulèvement des esclaves, dans la morale, commence lorsque le ressentiment devient lui-même créateur et engendre des valeurs. » Vous voyez à quel point il serait bête de dire « Oui, Nietzsche, il est contre Spartacus. Genre, il est contre la révolte des esclaves. » Non, tout ça est une métaphore. Le soulèvement des esclaves dans la morale commence quand le ressentiment se met à produire des valeurs. C'est-à-dire quand nos valeurs ne viennent pas d'une aristocratie puissante, sûre de son fait et affirmatrice ou affirmative, mais au contraire, d'un tempérament plébéien en soi, réactif, faible. Et c'est en cela que la faiblesse est plus forte que la force. Parce que la faiblesse, c'est elle qui est victorieuse en l'occurrence. Quand il parle de victoire du peuple, il parle d'une victoire de la faiblesse. Le fort ne se méfie pas assez du faible, qui est beaucoup plus fort que lui. On l'a vu tout à l'heure. À l'image, là encore on en a parlé, de ces êtres fatigués de donner et qui deviennent avares. Ou de ces jouisseurs déçus en amour qui deviennent Savonarole, ou des fumeurs repentis qui deviennent des ayatollahs anti-tabac. C'est la même chose. Il désigne ici la même chose. Il oppose, vous voyez, une morale aristocratique. La morale aristocratique, c'est la morale qui naît, dit-il, d'une triomphale affirmation d'elle-même. Tandis que, dit-il, la morale des esclaves oppose dès l'abord un non à ce qui ne fait pas partie d'elle-même, à ce qui est différent d'elle, à ce qui est son non-moi. Et ce non est son acte créateur. Donc, voyez, victoire du peuple, c'est à la fois la victoire du non sur le oui, c'est-à-dire le ressentiment comme source vive, le non comme point de départ. Or, Nietzsche, vous vous souvenez, dans le Gai Savoir, il dit, quand il formule l'amor fati, l'amour du destin, il dit je veux naître ici plus qu'un tempérament affirmateur. Ce sont les vœux de Nouvel An. C'est paragraphe 276 dans le Gai Savoir. Il dit je ne veux être qu'un esprit affirmateur. Je veux être toute affirmation. Je veux être dans le oui. Je veux dire oui à tout. Il dit oui à tout. C'est son ambition. C'est presque son impératif catégorique. C'est sa morale, si j'ose dire. C'est sa morale. C'est une morale qui repose sur l'affirmation. Plus que sur le... C'est pas la résignation, c'est pas la soumission. Non, c'est l'affirmation. C'est une morale de l'affirmation. Alors, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la victoire du peuple désigne une morale, la victoire d'une morale qui a toujours et avant tout, dit-il, besoin pour prendre naissance d'un monde opposé, d'un monde extérieur. Or, dans nos vies individuelles, dans nos petites vies, Paola. Les mauvaises décisions, en général, on les prend sous le coup d'une comparaison. Les comportements, par exemple, toxiques dans une vie conjugale naissent de la jalousie ou d'une comparaison avec l'amant qu'on imagine ou avec la maîtresse qu'on imagine. Voyez, c'est cette mauvaise disposition qui naît de la comparaison. La comparaison, c'est le contraire de l'affirmation. Quand on est dans la comparaison, on n'est pas dans l'affirmation. Quand on est dans la comparaison, on se mesure à autrui. On considère qu'il n'y a que la taille qui compte, si vous voulez. Et au fond, Nietzsche ne dit pas tellement autre chose ici.
Ce dont vous parlez, c'est par exemple la distinction que fait dans la suite du paragraphe 10 Nietzsche entre les hommes de haute naissance et les impuissants.
Oui, c'est les hommes de haute naissance, c'est ceux qui, dit-il, avaient le sentiment d'être les heureux. Ils n'avaient pas besoin de construire leur bonheur, dit-il, en se comparant à leurs ennemis.
C'est peut-être la différence entre l'artiste et le critique, en tout cas le mauvais critique.
Ah oui, clairement. Oui. Clairement. C'est-à-dire que c'est un des avatars de la différence qu'il pose. Les hommes de haute naissance ou les artistes, Bah, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui épouse la nécessité qu'il compose, qui le constitue. Il est marié à lui-même, non pas à sa propre personne. Il est marié à l'autre qu'il porte en lui. Il épouse la nécessité qui le fait composer, peindre ou écrire comme il compose, écrit ou peint. Bon. Donc ça, ce sont les hommes de haute naissance. C'est une autre façon d'être un homme de haute naissance. Et en face de ça, il y a, dit-il, les impuissants, les opprimés, accablés sous le poids de leurs sentiments hostiles et venimeux, chez qui le bonheur apparaît surtout sous forme de stupéfiant, d'assoupissement, de repos, de paix, de relâchement pour l'esprit et pour le corps. Bref, sous sa forme passive. Alors effectivement, ça peut être le critique littéraire. C'est-à-dire, ça peut être celui qui maquille en ironie, en mépris, le ressentiment qui est le sien. En l'occurrence, le dépit de n'être pas l'auteur du livre qu'il critique, par exemple, ou d'être incapable de le faire. Fameuse phrase de Lautner sur les critiques, Georges Lautner disait « Les critiques sont des impuissants qui parlent d'amour ». Et on est ici exactement dans une perspective nietzschéenne. C'est-à-dire, vous avez d'un côté celui qui crée quelque chose, et de l'autre côté celui qui blablate. Celui qui pipote ou qui papote sur cette affaire-là. Et c'est la grande différence entre d'un côté un tempérament affirmateur et de l'autre côté un tempérament réactif. Et vous voyez, le génie de l'individualisme nietzschéen est là. Ce qu'il appelle les hommes de haute naissance, ce sont les tenants d'un égoïsme souverain. D'un égoïsme souverain, c'est-à-dire d'un égoïsme tellement égoïste qu'il n'a pas besoin des autres. Il ne se compare pas. Il affirme sa différence. Il ne se compare pas. Alors, Nietzsche dira qu'il affirme sa supériorité. On peut se contenter de dire qu'il affirme sa différence et qu'il n'a aucun besoin de se comparer. Que la comparaison est toujours mortifère, toujours délétère, toujours populacière, plébéienne, ingrate. Alors que l'affirmation, elle, ne l'est pas. Ça, c'est assez fort parce que c'est le premier point, si vous voulez, c'est cette définition de l'égoïsme par opposition auquel on peut opposer l'égoïsme sournois, populacier, mesquin, dégueulasse, du type qui évalue les choses selon soit le besoin qu'il en a, soit le ressentiment qui le porte à détester ce qu'il en vit. Donc, deux formes d'égoïsme. Mais là où Nietzsche est très fort, et puis on va s'arrêter là-dessus, c'est dommage parce qu'il y a le fameux paragraphe 13 de la généalogie de la morale qu'on aura l'occasion d'évoquer, dans lequel Nietzsche fait une critique de l'anthropomorphisme extraordinaire en parlant des oiseaux de proie et de leur rapport aux agneaux. Laissons ça parce qu'on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais je renvoie nos auditeurs au très fameux, très beau, très magnifique paragraphe 13 de la généalogie de la morale sur cette différence entre les oiseaux de proie et les agneaux. Juste un point pour terminer tout ça. L'individualisme nietzschéen a ceci d'extraordinaire qu'il mêle à la généalogie des valeurs nobles, c'est-à-dire à la généalogie critique des valeurs nobles, du bien, des plus hautes valeurs. D'accord ? Il fait la critique de ces plus hautes valeurs en montrant leur soubassement. Il mêle à ça une défense des individus nobles. Voyez ? C'est-à-dire que Nietzsche critique toutes ces hypostases, c'est-à-dire toutes ces façons qu'on a d'appeler bien ce qui est bon pour soi, ou de tenir pour méchant celui qui est mauvais pour soi. De désigner comme méchant celui dont la force, celui que sa force met hors de mon atteinte, par exemple. Donc, il fait cette généalogie critique des plus hautes valeurs, des valeurs qui sont présentées comme inentamées, immaculées, impérissables, magnifiques, etc., etc. Bon, et à cette critique, il ajoute une défense des individus nobles. Et ça, c'est une des particularités de Nietzsche, qui est vraiment remarquable, c'est que chez Nietzsche, la critique du ciel, ciel étant ici une métaphore, c'est-à-dire par critique du ciel, j'entends la critique de toutes les valeurs célestes. La critique du ciel culmine, littéralement, dans un éloge des cimes. Si vous voulez, du point de vue de Nietzsche, il faut prendre beaucoup, beaucoup de hauteur pour constater que le ciel est vide. L'enjeu de la pensée de Nietzsche, c'est de remplacer le ciel par la cime. Les valeurs célestes par l'art de prendre de la hauteur. Ou par le fait de se sentir supérieur, par exemple. Les idées élevées par des individus supérieurs. Mais supérieurs en puissance, pas en force. Supérieurs en liberté, pas en volonté de dominer. Supérieurs en générosité, pas en paternalisme. C'est ça qui est remarquable. Il est celui qui parvient à faire la critique du ciel tout en faisant un éloge de la hauteur. Et c'est par cette célébration de la hauteur, si vous voulez, il combine dans la généalogie de la morale une célébration de la hauteur, de la distance, du pathos de la distance. Il combine cela à une critique de l'illusion des valeurs absolues dans laquelle il repère uniquement du ressentiment. Et vous voyez, on comprend comment la première dissertation fonctionne parce que, au fond, bon et mauvais, bon et méchant, bon et mauvais, ça veut dire, d'une part, vous avez la victime qui, en qualité de victime, se vit comme bonne et qui désigne celui qui a triomphé d'elle comme méchant. C'est l'invention du faible. Et vous avez en face de cela bon et mauvais, c'est-à-dire celui qui se vit lui-même comme bon et non pas comme victime, celui qui, parce qu'il se vit comme différent, parce qu'il ne se compare pas, se vit lui-même comme bon et repère, non pas comme méchant, mais comme mauvais, celui qui voudrait lui infliger le filtre du ressentiment ou le soumettre à la doctrine du ressentiment, celui qui repère le ressentiment derrière les valeurs dont il prétend l'accabler, qu'il prétend lui enseigner, qu'il prétend lui imposer et qu'il excelle à vouloir lui imposer. Le mauvais est une invention de l'aristocrate qui a assez de bienveillance envers lui-même pour faire confiance à son évaluation. Il part du bon pour identifier le mauvais. C'est un arbitraire intuitif et généreux de l'homme élégant. Par opposition à l'arbitraire sournois du type qui considère, parce qu'il est victime, qu'il est faible, et parce qu'il est faible, qu'il est bon, et parce qu'il est bon, que l'autre est le méchant. Un grand merci Paola, c'est plein de regrets que cette émission s'achève car nous n'avons pas évoqué la question des agneaux et des oiseaux de proie, du moins pas suffisamment. Nous n'avons pas visité la cuisine aux idéaux ascétiques qui se trouve dans la première dissertation de la généalogie de la morale. Vraiment, je vous invite, chers auditeurs, à y aller. Ne vous en faites pas si vous n'en comprenez pas tout. Méditez ce texte, lisez-le, relisez-le, ruminez-le, pour parler comme Nietzsche, et vous verrez que vous en sortirez non pas indemne, mais tout simplement agrandi. Un grand merci donc Paola, merci à François Connac, notre réalisateur, à Julie-Marie Parmentier, notre lectrice, à Bernard Laniel à la technique aujourd'hui, et à Alice Ramon, notre attachée de production. On se retrouve dimanche prochain pour un retour aux sources, puisque c'est du thé et tête que nous parlerons, le dialogue de Platon, le dialogue dans lequel d'ailleurs Socrate raconte et explique en quoi il fait le même métier que sa mère, qui était sage-femme. On parlera donc de maïeutique, on parlera aussi d'albatros. Bref, on reviendra à ce texte fondateur de la pensée occidentale, cette réflexion sur la science conduite de main de maître par Socrate, Théodore et Théétète. Cette émission, vous la retrouvez en ligne sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargement, bibliographie, écoute en ligne, bien sûr. Dans l'intervalle, faites de la philosophie sur France Culture, c'est-à-dire écoutez les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, de 10h à 11h, traverseront pour vous, et c'est un effet du hasard, la pensée de Nietzsche également, à travers Le Crépuscule des Idoles, c'est-à-dire l'un des livres qu'il écrivit sous le coup d'une folie qui était en train de prendre le pouvoir, mais qui ne l'empêchait pas encore de coucher ses fulgurances sur le papier. Le Crépuscule des Idoles et les nouveaux chemins de la connaissance, c'est toute la semaine sur France Culture de 10h à 11h grâce à Adèle Van Rett. 17h sur France Culture. Dans quelques instants, Ali Rebéi du côté de chez soi.